Pas ici, il est ressuscité, dit un ange aux femmes qui se rendirent au tombeau de Jésus de bonne heure le premier jour de la semaine suivant sa crucifixion. Cette nouvelle leur donna un nouvel espoir, et depuis la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, elle continua d'être l'une des pierres angulaires de la foi chrétienne. Quelle signification a ce miracle dans le monde chaotique et craintif d'aujourd'hui? Dans cette émission de notre série de programmes d'études de la Bible, nous passerons en revue certains faits importants concernant la résurrection du Christ et son rapport avec le plan divin du salut. Ces programmes sont destinés à l'avancement de l'étude biblique dans un esprit de tolérance et de bonne volonté envers tous et vous sont présentés par l'Association des étudiants de la Bible Aurore avec les groupes locaux et les nombreux amis de partout.
Merci Thomas. Je suis content que tu aies fait allusion à la résurrection de Jésus comme étant un miracle. Car le christianisme a peu ou pas de sens pour nous, à moins que nous puissions croire au miracle. N'est-ce pas vrai, Thomas?
C'est très vrai, Pierre. Et ce fait est devenu plus apparent à mesure que nous examinons l'un après l'autre les livres de la Bible. La création de l'homme est un miracle, et malgré tous les progrès de la science, l'homme ne sait pas encore ce qui le fait vivre. Le secret de la vie lui étant caché.
Et la précision merveilleuse avec laquelle les prophéties de l'Ancien Testament ont annoncé la venue de Jésus, sa naissance, son ministère, sa mort en sacrifice et finalement sa résurrection est encore un miracle. L'une des prophéties les plus claires concernant la résurrection de Jésus se trouve au psaume 16, verset 10. Veux-tu la lire, je te prie?
Certainement. Le texte dit « Tu n'abandonneras pas mon âme au sépulcre, tu ne permettras pas que celui qui t'aime voie la corruption. » Ceci s'applique-t-il à Jésus?
Oui, c'est une expression prophétique de la confiance qu'eut Jésus qu'il serait ressuscité d'entre les morts.
Que veut-on dire par « son âme ne resterait pas au sépulcre » L'âme de Jésus y alla-t-elle vraiment lorsqu'il mourut?
Oui, Thomas, et je crois qu'il est très bon que nous nous rafraîchissions la mémoire à ce sujet par rapport à la résurrection de Jésus. Quand nous avons examiné le premier livre de la Bible, la Genèse, nous avons découvert que le mot « âme », tel qu'il est employé dans la Bible, est synonyme du mot « être ».
Oui, je m'en souviens. Dans la Genèse, à chapitre 2, verset 7, on nous dit que Dieu créa l'homme de la poussière de la terre, puis qu'il souffla dans ses narines une respiration de vie, et que l'homme devint ainsi une âme vivante, c'est-à-dire un être vivant.
Et le mot « âme » a la même signification dans toute la Bible. Jésus, comme être ou personne, alla au sépulcre quand il mourut, parce que dans la mort, il prit la place du pécheur.
Pierre, qu'est-ce que l'enfer de la Bible? Il est important de le comprendre, ne crois-tu pas?
C'est très important, Thomas. Et pour cela aussi, nous n'avons qu'à revenir au livre de la Genèse, où le mot est employé pour la première fois. Et nous trouvons que le mot « Sheol », dans le texte hébreu, traduit parfois par « enfer », n'est que la condition de la mort.
Oui, je me souviens que le bon patriarche Jacob s'attendait à aller au Sheol lorsqu'il mourrait. Et je crois que c'était Job qui priait pour aller au Sheol afin d'échapper à la souffrance.
C'est juste. Et Salomon explique qu'on est inconscient au Sheol dans l'enfer de la Bible. Ce n'est que la condition de la mort. L'âme de Jésus qui alla en enfer signifie simplement, comme nous l'avons appris la semaine dernière par une prophétie d'Ésaïe, qu'il livra lui-même son âme dans la mort. Mais il mourut ayant pleine confiance que son Père céleste rendrait son âme à la vie, qu'il serait ressuscité d'entre les morts.
Et la foi de Jésus fut comblée. Le troisième jour, en effet, Dieu le ressuscita d'entre les morts.
Les quatre évangélistes, Matthieu, Marc, Luc et Jean, donnent le récit de la résurrection de Jésus.
Mais, Pierre, quand je lis les récits de sa résurrection et par la suite de son apparition à ses disciples, il me semble que Jésus était très différent de ce qu'il était avant sa mort. À Marie, il apparut comme un jardinier. À deux de ses disciples, se rendant à Emmaüs, il apparut comme un étranger. Thomas dit qu'il ne pouvait pas croire à la résurrection de Jésus, à moins qu'il ne puisse voir l'empreinte des clous dans ses mains. Jésus apparut à Thomas et aux autres dans un corps tel que celui qui doutait désirait le voir. Devons-nous comprendre que Jésus possédait différents corps après sa résurrection?
Au chapitre 20 de l'évangile de Jean, verset 30, il est expliqué que ces apparitions étaient des signes. Ces signes furent donnés aux disciples qui, comme êtres humains, pouvaient croire que Jésus fut ressuscité des morts sans voir quelque chose de tangible. Avant sa mort, Jésus leur avait dit qu'il donnerait sa chair pour la vie du monde. Ainsi, ses apparitions, sous divers aspects après sa résurrection, aidaient à marquer dans leur esprit que maintenant, il était différent et possédait un pouvoir qui ne lui appartenait pas auparavant, par le fait qu'il n'était plus humain.
Pierre, cela me fait penser à un récit rapporté au chapitre 3 de Jean, au sujet d'un homme nommé Nicodème, qui vint de nuit vers Jésus, avouant qu'il reconnaissait en lui un homme envoyé par Dieu. Jésus lui expliqua en disant, « À moins qu'un homme ne naisse de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Puis Jésus continua, « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne peux dire d'où il vient ni où il va. » Il en est de même pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit.
Et après sa résurrection, Jésus put faire de même. Il fut invisible à ses disciples, excepté quand il se manifeste à eux spécialement. Comme le vent, il pouvait aller et venir invisible. Il apparut à ses disciples dans une chambre, alors que les portes étaient verrouillées et fermées. Après avoir conversé avec eux, il disparut sans qu'il fût nécessaire d'ouvrir les portes. Oui, Jésus fut mis à mort quant à la chair, mais il ressuscita comme être spirituel. Il a donné sa chair pour la vie du monde.
Pierre, Jésus apparut une fois à ses disciples et annonça que tout pouvoir lui était donné sur la terre comme au ciel.
Et dans son royaume, Jésus usera de son pouvoir pour mettre à exécution les merveilleuses promesses de son Père concernant les bénédictions de paix, de sécurité, de bonheur et de vie éternelle promises aux hommes. Cette grande œuvre du royaume messianique s'accomplira au temps de la seconde présence de Jésus sur la terre. 40 jours après sa résurrection, il retourna dans la demeure céleste. Le récit de son départ se trouve au début du livre suivant du Nouveau Testament, les Actes des Apôtres. Je remarque, Thomas, que tu as repris le livre des Actes.
Oui, et comme tu le dis, il se trouve au premier chapitre un récit de la dernière apparition de Jésus à ses disciples. En cette occasion, ils lui demandèrent « Sera-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Que voulait-il dire exactement par cela?
Dans notre analyse de l'Ancien Testament, nous avons trouvé que le royaume d'Israël avait été renversé par Nebuchadnezzar, roi de Babylone en 606 avant Jésus-Christ. Depuis lors, Israël fut en premier lieu vassal de Babylone, puis des Mèdes et des Perses, puis de la Grèce. Et au jour de Jésus, Israël fut vassal de Rome. Les disciples croyaient que Jésus, en tant que Messie, délivrerait Israël, qui deviendrait de nouveau une nation libre. Puisque Jésus, ressuscité des morts, avait annoncé que tout pouvoir lui était donné au ciel et sur la terre, il lui demandait si le temps était venu de rendre la liberté à Israël et de l'élever en puissance au-dessus des autres nations, en accomplissement des promesses messianiques. Thomas, il serait bon de lire la réponse de Jésus à cette question. Elle se trouve au verset 7.
Merci, Pierre. Je le ferai volontiers. Il y est dit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre volonté. »
Tu pourrais lire aussi le verset suivant, Thomas.
Très bien. « Mais vous recevrez une puissance par la vertu du Saint-Esprit qui descendra sur vous, et vous serez mes témoins tant à Jérusalem que dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. »
Par ceci, Thomas, tu peux discerner qu'une ère nouvelle a été annoncée par Jésus. Ce n'était pas encore le moment voulu où les merveilleuses promesses du royaume du Messie seraient accomplies, mais que d'abord l'évangile, ou bonne nouvelle du royaume, devait être prêché sur toute la terre par ceux qui deviendraient les témoins de Jésus.
Autrement dit, depuis lors, ce ne fut pas la période du royaume, mais ce fut l'âge de l'évangile, c'est-à-dire la période où les disciples de Jésus proclamèrent l'évangile pour attirer ceux qui, par une foi vivante, sont devenus eux-mêmes témoins de Jésus.
C'est juste. Et quand Jésus eut donné ses instructions à ses disciples, le récit dit qu'il fut enlevé dans une nuée qui le déroba à leurs yeux.
Et alors, selon le récit, deux hommes, que je suppose être des anges, apparurent et dirent aux disciples que Jésus reviendrait de la même manière qu'ils l'avaient vu monter au ciel.
Et ce départ fut tranquille. Il passa inaperçu du monde et ne fut vu que des disciples intimes. Et à partir de ce moment-là, la grande espérance de tous les vrais disciples de Jésus s'est concentrée sur ce retour. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament révèlent que c'est lors du retour de Christ que le royaume du Seigneur, longtemps promis, sera établi, et que les bénédictions de ce royaume couleront pour le monde comme une source de vie, pour la félicité de toutes les familles de la terre.
Et Pierre, le fait que le Créateur ressuscita Jésus d'entre les morts est la preuve de son intention et de son pouvoir d'accomplir toutes les promesses qu'il a faites. Quelle assurance cela devrait donner au monde aujourd'hui harcelé par la peur?
Oui, cela veut dire que la paix viendra sur la terre. Cela veut dire que les nations transformeront leurs épées en socs de charrues et leurs lances en serpes. Cela veut dire que les gens recevront la santé et la vie éternelle, que la mort sera engloutie par la victoire. Toutes les promesses de Dieu sont si bien exposées dans l'article de la revue Aurore, la venue du Sauveur sur la terre, que je vais demander à Thomas de la présenter à nos amis.
Je le ferai volontiers. Chers amis, c'est la dernière fois que l'article de la revue Aurore, la venue du Sauveur sur la terre, vous est offert. Demandez un exemplaire de cet article, le cinquième d'une série qui passe en revue tous les livres de la Bible et qui traite des quatre premiers livres du Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il vous présente la vie et le ministère de Jésus, sa mort, sa résurrection et son élévation au ciel. Chacune de ces pages vous apportera lumière, foi et espérance. Pourquoi a-t-il fallu que Jésus fût fait chair? Pourquoi a-t-il fallu qu'il meure? Quel sera le résultat de sa résurrection? Que veut dire la prophétie disant que l'âme de Jésus ne resterait pas en enfer? Traduction de ma Bible, sépulcre. Qu'est-ce que l'enfer de la Bible et comment Dieu détruit-il les âmes en enfer, mentionné par Jésus? Comment savons-nous qu'il y aura un jour un programme de guérison mondiale? Ces questions et bien d'autres ont leur réponse dans l'article « La venue du Sauveur dans le monde ». Demandez de suite un exemplaire gratuit. Il vous sera envoyé gratuitement et franco. Ces programmes d'études de la Bible vous sont présentés par l'Association des étudiants de la Bible Aurore qui publie la revue Aurore en coopération avec les groupes locaux d'études de la Bible et de leurs amis de partout. Nous serons avec vous à nouveau la semaine prochaine à la même heure. Dites-le à vos amis, je vous prie, et que Dieu vous bénisse tous.